normal. Ça fait un an qu'on demande au pouvoir public de réquisitionner des logements, des bâtiments commerciaux, des logements, ce que les pouvoirs publics ne font pas et ce qu'on fait à leur place. On n'est pas subventionné, on n'a pas d'argent et on se débrouille avec nos propres moyens. Ce qu'on demande, c'est que l'État prenne en charge toutes ces personnes qui sont à la rue avec des enfants qui sont scolarisés, des personnes qui cherchent du travail, qui sont volontaires et qui aimeraient s'en sortir.
La réquisition, c'est dedans où les gens dorment.
Et pourquoi ils dorment dans une réquisition?
Parce qu'ils sont à la rue et quand il fait froid, et ben ils ont tellement froid qu'ils peuvent devenir malades. Et s'ils n'ont pas d'argent, et ben ils vont devenir malades.
Et ici?
Et là, c'est le deuxième étage. Là, il y a Vasilka qui habite. Là, il y a un monsieur et un monsieur. Là, c'est toujours chez Vasilka. Là aussi, chez Vasilka. Alors là, c'est chez
John.
Là, c'est chez Yachalier, là aussi.
C'est quoi la réquisition?
Réquisition, c'est un endroit où on habite et où il y a des familles et où on ne paye pas de loyer parce que c'est un endroit où on est rentré dedans parce que c'était inoccupé. Et puis on s'occupe des personnes qui sont là pour que les enfants puissent aller à l'école, voilà. Mais bon, ces réquisitions, c'est plus des personnes qui veulent après avoir un appartement ou un logement. C'est pas pour rester des années dans des bureaux habités comme ça. Pour dépanner, c'est bien, mais l'idée quand même, c'est de me regarder. Et voilà.
C'est quoi lui, on fait la force?
Rien. Si je tape sur la table tout seul, je tape pas fort. Par contre, si je tape avec toi sur la table, c'est ça. C'est ça l'union fait la force. Si on est deux à taper, on a plus de poids. Et une dernière question, vas-y.
C'est quoi cette chose qui m'est collée?
Ben ça, c'est une décoration pour Noël. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le samedi 7 décembre. Que dans quelques jours, ça va être Noël.
C'est le 25.
C'est le 25, t'es sûr?
Oui. Bonjour.
Ah, salut.
Pardon.
Ah, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Pourquoi vous faites une réunion?
Pourquoi on fait une réunion? Ah, ça c'est une bonne question.
T'as bien fait de la poser à Jacques.
Alors, on fait une réunion parce que c'est la réunion campagne, la réunion du mardi. Donc, en fait, on définit ce que l'on va faire dans la semaine ou dans un avenir assez proche, tous ensemble, les gens qui habitent ici et aussi les associations et les militants qui se réunissent pour voir ce qu'on a comme projet pour les jours et les semaines à venir.
Oh là là là!
Tu nous fais visiter?
Oui.
Allez, on y va, tu la suis. Non,
on est dans le couloir. Ici, on va entrer dans la piscine. Il y a des frigos, des tables à manger. Et ici, c'est une salle à manger pour les familles qui sont de nouvelles, qui n'ont pas encore des maisons. On peut faire des repas partagés et tout.
On continue?
Ah, il y a
ici, il y a des toilettes. Ici, des toilettes, voilà. Ici, c'est la chambre de Jalmine. Ici, c'est la salle de jeu des enfants.
Oui.
Ici, il y a une salle spéciale pour les clés. Ici, c'est pour des habits, des vêtements, pour les partager. Et on a un étage. Ici, il y a une famille de Madame Danka, ici
Lolo.
Olivier. On a franchement beaucoup des escaliers dans cette réquisition.
Oui.
D'accord. Là, c'est la porte de sortie dehors.
Wow.
Et maintenant, merci et au revoir, vous pouvez partir.
Et là, c'est la porte pour sortir.
Au revoir.
Voilà, de retour dans le magazine de Canal Sud. Merci au collectif Palestine Libre et, qui sont venus dans les studios. Vous pourrez retrouver l'interview évidemment en podcast sur le site de Canal Sud, www.canalsud.net. Et là, nous avons en studio de nouveaux invités, donc Michel et Jordan du CEDIS, le collectif d'entraide et d'innovation sociale, CEDIS. Et qui est en fait un bâtiment rue d'Alès, donc c'est à côté de l'avenue de Muret depuis juillet 2014, avec 150 personnes à peu près à l'intérieur. Déjà, bonjour à vous.
Bonjour.
Merci, merci d'être venu, d'avoir répondu favorable à l'invitation. Et ce bâtiment, qu'est-ce que c'est? Le CEDIS, qu'est-ce que c'est? Et puis vous, est-ce que vous voulez bien vous présenter un petit peu? On va prendre le temps de parler de tout ça. Jordan, peut-être.
Je vais commencer. Donc moi, Jordan, je suis un nouveau venu dans ce collectif. Je suis arrivé en septembre, ancien étudiant. Sur le collectif, actuellement, j'ai un statut qu'on définit d'habitant militant. Donc je vis sur la réquisition, le rue d'Alès, ce que tu nommais juste avant. Je participe sur place à la vie collective du lieu et en même temps je vis sur place.
Ok.
Donc Michel, c'est un profil un peu différent.
Oui, moi, donc Michel, je suis un enseignant à la retraite, je suis militant extérieur.
Ok.
Et donc.
Tu n'habites pas sur le lieu.
J'habite pas sur le lieu.
D'accord.
Et je suis au CEDIS depuis octobre 2013. Lorsqu'on était à Quai Saint-Pierre.
D'ailleurs, les sons qu'on vient d'entendre avaient été réalisés par Benoît de TV Bruit, et c'était justement à la réquisition Quai Saint-Pierre, donc l'ancien bâtiment que vous occupiez.
C'est ça. Parce qu'il y a toute une histoire en fin de compte. Hein.
Voilà.
Le CEDIS, il est né au départ d'une campagne de réquisition en 2013 où était associé la CREA,
ouais, okay.
le GPS. Et puis le collectif SDF 31 et puis le DAL.
Okay.
Et ensuite, pour des projets, les projets se sont un petit peu séparés. Et est né le CEDIS, qui comprend le collectif SDF 31.
D'accord.
Et puis le GPS, le groupement pour la défense du travail social.
D'accord.
Qui est très important, okay. Puisque ce sont des travailleurs sociaux qui sont militants et bénévoles sur le CEDIS.
D'accord.
Voilà. Qui a été créé pour répondre à toutes les personnes qui étaient bénévoles et militants, et pas que le GPS et pas que le collectif SDF 31. Donc il y avait aussi des bénévoles. Donc pour englober tous ces bénévoles, on a créé le CEDIS en avril 2014, concrètement.
D'accord, ok, voilà. Ça marche. Et donc, CEDIS, c'est ouais, collectif d'entraide et d'innovation sociale. Mais pourquoi ce nom il a été choisi? Enfin, c'est un peu moi, je trouve que c'est un peu bizarre comme nom. Alors, peut-être qu'on vous a déjà fait la réflexion ou pas, mais c'est quoi l'idée, en fait, qui se cache derrière le projet?
Si je peux pas répondre.
Concrètement, ouais. On a cherché à pouvoir... comment on cherche des partenariats?
Mm-hmm.
Et qu'on voulait communiquer avec la nouvelle mairie.
Ouais, okay.
Donc on a cherché un nom qui pouvait passer,
oui,
et
voilà.
Qui pouvait correspondre au projet qu'on voulait développer.
D'accord, ok.
Concrètement.
Ça marche, et voilà. Sur le côté ouais. Innovation sociale, par exemple, je suis assez récent dans le collectif, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une volonté de trouver des solutions entre guillemets nouvelles,
mm-hmm.
ou pas habituelles, on va dire, avec les pouvoirs publics. Donc que ça soit dans l'accompagnement des personnes vers un emploi, vers une situation plus stable, ou tout simplement de l'accompagnement vers un logement. Mais il y a vraiment cette volonté de trouver des solutions avec les pouvoirs publics qui puissent être pérennes à la fois pour les habitants et qui puissent en même temps ne pas trop contraindre les pouvoirs publics, ne pas être en confrontation forcément. Mmh. D'où peut-être le terme innovation sociale. On cherche des nouvelles solutions, ouais. Que okay. La réquisition pure et simple, même si dans les faits on est aussi là-dessus, il y a cette volonté. Enfin,
Oui, effectivement, on abrite des gens qui sont à la rue, mais en même temps on développe des tas de on est force de proposition. Okay. On est force de proposition et on pourra en reparler tout à l'heure.
Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Alors du coup, parce qu'on parle de réquisition, on n'a pas encore parlé du lieu dans lequel vous vivez, vous bossez, un petit peu, enfin vous vivez en fait, tout simplement. Le lieu, il a été ouvert en juillet 2014. Il est situé, je l'ai dit, à rue d'Alès. Donc, c'est pas très loin d'avenue de Muret, quartier Croix-de-Pierre plutôt, ouais, hein, c'est ouais, ça ouais. Et donc, c'est un ancien bâtiment, si je ne me trompe pas, de la Défense.
Qui appartient au ministère de la Défense.
Ministère de la Défense.
Donc, c'est un, ce sont un bâtiment qui comprend...
C'est un immeuble entier, en fait.
C'est un immeuble entier, il y a trois entrées.
Ouais.
Trois entrées. Et une trentaine, il y a 30 appartements.
D'accord.
Qui vont du T3 au T5.
D'accord.
Et la plupart de ces appartements sont partagés.
D'accord.
Pour qu'il y ait plus de monde dans le bâtiment.
Ouais.
Et donc ça représente à peu près 150
personnes. 150
personnes.
Avec pas mal d'enfants.
Essentiellement des familles. Mmh. Et, une 34 familles, 39 familles peut-être.
Ouais.
Et puis une quarantaine d'enfants.
Un peu plus, quasiment 50.
Voilà, une cinquantaine d'enfants. Mmh. Tous scolarisés. Voilà, des familles plutôt... à la rue, mais aussi ordinaire. Quoi.
Mmh. Ouais.
Okay. Donc, peut-être pour revenir un petit peu en amont, sur, pour bien comprendre ce que Michel venait de dire, vraiment, l'objectif du CEDIS sur ce bâtiment, c'est de mettre à l'abri, de fournir un logement aux publics les plus précaires.
Mmh.
D'où le fait que ce soit des familles. Enfin, l'idée, c'était quand même de sortir avant tout les enfants de la rue et les personnes en grande difficulté, par exemple, de santé. Donc c'est pour ça que les profils qu'on va retrouver dans ce bâtiment, c'est avant tout des familles.
D'accord.
Alors, et puis, alors, pour dire en plus, c'est un bâtiment qui était resté vide, donc qui appartient au ministère de la Défense, et qui est resté vide pendant 4 ans.
D'accord.
Et donc, pourquoi il est resté vide pendant 4 ans c'est un bâtiment qui s'est détérioré un petit peu, mais concrètement, quand même, les appartements sont en très bon état, sauf un. Qu'un habitant a retapé lui-même.
D'accord.
Et qui ensuite a habité.
D'accord.
Donc, on a des problèmes un peu de logistique, parce que justement, la plomberie qui était en fibre,
c'est un peu ancien,
les canalisations qui étaient en fibre au ciment, se sont détériorées, donc on fait des réparations couramment.
Ouais.
Et puis au niveau électricité, parce que c'est un gros problème pour les voisins, qui c'est qui paye l'électricité, qui c'est qui paye l'électricité, eh bien concrètement, ce sont les habitants qui vont payer leur électricité.
D'accord.
Donc voilà.
Donc là, les gens payent leur électricité.
Pas encore. Concrètement, pas encore, mais on est en relation avec ERDF pour qui nous demande de payer le passif depuis juillet, août 2014.
Oui. 14, oui, c'est ça.
Et donc, concrètement, les habitants vont
demande
payer.
Demandent à payer leur...
Nous, quand on est arrivé, on avait fait le relevé des compteurs.
D'accord. Ouais.
Et donc, on a ils vont payer le passif. Après, pour l'avenir, on verra comment on pourra faire. Si chaque habitant prend un compteur à son nom, ou comment on peut voir ça avec ERDF. Quoi.
Donc c'est une demande de bonne foi pour rentrer
voilà,
dans...
Voilà, mais on se rapproche d'un système locatif, un petit peu. Hein, voilà. Donc ce sont des gens qui sont à la rue, qui n'ont pas d'abri, mais en même temps, ils cherchent à être le plus ordinaire possible. Hein.
C'est ça. Eux, ce qu'ils demandent, c'est de sortir de cet immeuble-là et d'avoir un vrai appartement.
Bien sûr. Et il y en a qui arrivent.
Hein. Et pourtant, on accepte les enfants dans les écoles. Comment ça se passe quand on inscrit un enfant dans une école comme ça, qui n'est pas forcément... on se dit, il l'accepte, sans pour autant savoir ses conditions de vie. Comment ça se passe?
Ça n'a... Enfin, j'ai envie de dire, ça n'a pas trop de rapport.
D'accord.
Tous les enfants, la scolarité, c'est obligatoire. Hein.
Oui.
Donc, à partir de 6 ans, la scolarité est obligatoire. Donc, nous...
L'instruction, c'est vrai.
Parce qu'on peut faire l'instruction chez soi.
Ouais, voilà. C'est vrai.
Tout à fait d'accord.
C'est vrai.
Mais c'est une réalité. Vous avez raison.
D'accord.
Mais concrètement, tous les enfants sont scolarisés et ceux qui ne l'étaient pas, on s'est empressés, on les a encouragés à ce qu'ils soient scolarisés, à les aider. Parce que, par exemple, des jeunes Roumains qui ne sont pas scolarisés, il faut aller à l'ENAF.
D'accord.
Pour les enfants nouvellement arrivés en France,
d'accord,
ils sont évalués.
Voilà.
Et ensuite, on les met dans telle école ou tel collège ou tel lycée.
D'accord, donc on voit bien qu'ils ont des capacités à s'intégrer totalement.
Et il y a des équivalences par rapport à la Roumanie, par rapport à la Bulgarie, par rapport à leur école d'origine.
Ça marche. D'accord.
Ok, voilà. Intéressant.
Et du coup, on peut peut-être en venir un petit peu au fonctionnement, parce que ça doit être une sacrée paire de manches pour faire fonctionner tout ça. Comment ça se passe un peu la vie au quotidien? Alors, je sais, quand vous êtes présenté, vous êtes présenté en tant qu'habitant militant tout court, il y a un petit peu différents...
Statuts, entre guillemets, ou rôles...
C'est plus des rôles, quoi, c'est pas des statuts...
Il y a beaucoup de travailleurs aussi, j'imagine, des gens qui ont des emplois, non
En termes des personnes qui sont accueillies ou des militants
des militants qui sont sur les lieux
Oui,
il y a tous les profils.
D'accord.
Ça va du retraité à l'étudiant, au chef d'entreprise, au cinéaste.
Donc ça réunit l'ensemble de la société française, on peut dire quand même.
Et surtout, ce qui est important au sein des militants, c'est justement les travailleurs sociaux qui sont présents, qui sont militants et bénévoles, qui sont éducateurs, qui sont assistantes sociales et qui viennent en tant que militantes ou militants et bénévoles sur le lieu et qui font partie de toutes les commissions qui animent et qui gèrent le lieu.
Parce que du coup, concrètement, on parle des militants et des habitants, et des habitants militants. Est-ce que quand on vient habiter le lieu de la réquisition, est-ce qu'on doit s'engager aussi peut-être à filer des coups de main collectifs, ou bien alors est-ce qu'on peut aussi venir et puis essayer de vivre sa vie le plus... Alors, je pense que c'est important aussi.
C'est très important, mais au CEDIS, chacun y apporte ce qu'il veut, comme il peut.
Comme il peut aussi,
on n'est pas là pour dire toi tu fais pas ça, toi tu fais pas ça. Non, chacun fait ce qu'il veut et comme il peut. Mais il faut que ça rentre dans le projet qu'on a, qui est commun.
Sur le contrat que les personnes ont signé en rentrant.
D'accord, donc il y a un contrat quand même.
Voilà.
Mais pas pour les militants.
D'accord. Ouais, non, on parle des habitants.
Pour les habitants, bien sûr.
Donc il y a ce contrat qui stipule aux familles qu'elles doivent être volontaires dans leur démarche. Donc que ce soit sanitaire, social, recherche d'emploi, on leur demande à être actifs. Même si nous, on fait aussi un travail d'accompagnement et pour les aider à tendre vers l'autonomie. Et du coup, il y a un système d'heures collectives pour la gestion du bâtiment, parce qu'évidemment on ne paye pas une femme de ménage pour les parties communes, c'est nous qui sortons les poubelles, etc. etc. Donc là, il y a un sort de roulement qui a été établi.
D'accord.
Bon, c'est vrai qu'à 150, il y a quelques problèmes des fois de fonctionnement, dans l'ensemble, je trouve que... Moi, de mon point de vue, en tant que résident sur place, je trouve que ça fonctionne quand même plutôt très bien. Du coup, c'est 8 heures par mois qu'on demande à chaque habitant. Modulable un peu, on n'est pas non plus aux pièces, et du coup ça va être soit le ménage des parties communes, sortir les poubelles, s'occuper des gamins les mercredis, samedi après-midi ou autre, prêter sa voiture pour aller chercher la récupération de nourriture, etc., filer un coup de main dans la plomberie, dans la cave quand il y a un problème de tuyauterie, etc.
Interpréter lorsque dans les réunions. Parce qu'il faut des fois des interprètes, donc pour que tout le monde se comprenne. Donc et puis aussi des tas de choses, quoi. Comme tu dis, la logistique, des repas, préparer des repas lorsqu'il y a des manifestations communes, des repas partagés. Donc il y a 1000 manières de s'investir sur les heures collectives.
Ça marche.
Voilà.
Bon ben on a.
Et aussi pour compléter ce que disait Jordan sur le contrat, lorsqu'une personne arrive. D'abord, elle a besoin de se poser.
Oui.
Donc, lorsqu'une famille arrive, elle se pose un petit peu. On la laisse 15 jours tranquille. On lui présente le projet. On la laisse 15 jours, elle se pose. Et puis ensuite, c'est là, si le projet lui correspond, et si nous, la famille, on voit que ça peut correspondre au projet, elle signe le contrat.
D'accord.
Et dans ce contrat-là, pour compléter ce que disait Jordan, il faut aussi qu'elle appelle le 115. Parce que le 115, c'est là où elle peut obtenir... un hébergement ordinaire.
Et puis au-delà de d'obtenir un hébergement, c'est pour aussi montrer, j'imagine, au pouvoir public qu'il y a des gens qui sont en fait à la rue. Quoi,
exactement. Exactement. Ouais. C'est pour ça.
Ça qui est important
Je pense. Parce que nous, si on réquisitionne, c'est pour montrer à l'État aussi qu'il ne fait pas son boulot.
Ouais, qu'il a besoin. Quoi.
Qu'il y a des besoins, qu'il manque des places d'hébergement en France et notamment à Toulouse. Il en manque beaucoup. Même si la situation évolue, il en manque.
Okay.
Voilà. Donc les gens, il faut qu'on les encourage fortement.
Bien, on va faire une petite pause musicale. On a une petite présentation déjà, c'est pas mal. On commence à cerner un petit peu le projet. On se fait une petite pause musicale et puis on revient un petit peu derrière pour continuer à parler de tout ça.
Bon, on va écouter les Alalaz.
C'est ça.
Le groupe qui revisite après les Temples, donc le groupe qui revisite le son Swinging London, voilà, et on va s'écouter un morceau extrait de leur dernier album, ça s'appelle Better Than Mine, et l'album s'appelle Worship the Sun, voilà, et d'ailleurs c'est pas un hasard, hein. Bah, comme je le disais hier, les Temples avaient appelé leur album Sun Structure.
Dark.
De retour dans le magazine de Canal Sud en compagnie de Jordan et de Michel du CEDIS, donc le collectif d'entraide et d'innovation sociale basé rue d'Alès depuis juillet 2014, un grand bâtiment donc qui avait été réquisitionné à l'époque et qui héberge depuis environ 150 personnes de manière permanente, des personnes qui seraient à la rue sans ce bâtiment. Donc on a parlé déjà un petit peu de la réquise, comment c'était né, comment ça fonctionne un petit peu. On est en train de discuter hors antenne de la suite de ce dont on voudrait parler. Alors on a parlé du double rôle un petit peu de du CEDIS, donc à savoir d'un côté la réquisition de bâtiments vides et d'un autre côté de ce qu'on pourrait appeler une sorte de lobbying ou en tout cas une pression quoi,
recherche de solutions.
Recherche de solutions, oui.
Donc d'un côté il y a vraiment on fournit un logement aux personnes les plus en difficulté.
Ouais.
L'exemple de la réquisition rue d'Alès, mais après il y a d'autres maisons ou immeubles qu'on a essayé d'ouvrir, pas toujours avec succès, mais en tout cas il y avait cette volonté, toujours pour fournir un logement aux personnes les plus précaires. Et à côté il y a vraiment tout le travail de tractation auprès à la fois des pouvoirs publics, collectivités territoriales, donc mairie, préfecture, mais aussi des organismes type les bailleurs sociaux, EPFL, et ce que Michel disait hors antenne, des partenaires comme l'évêché,
oui.
L'évêché,
ou des congrégations.
Oui,
nous on est force de proposition, en plus d'abriter des gens. C'est-à-dire qu'on n'est pas en mesure de porter certains projets, mais on est capable de mettre en relation des gens qui pourraient faire avancer l'hébergement sur Toulouse, concrètement. On a rencontré dernièrement Monsieur Pradel, qui est un prêtre, qui est responsable aussi du patrimoine foncier de l'évêché.
D'accord.
Alors on s'est dit, pourquoi pas solliciter l'évêché, hein, puisque le pape avait dit, je sais pas, que c'était l'année de la famille, donc ça pouvait bien tomber. Donc on est allé rencontrer l'évêché, et puis ils nous ont reçus, et donc on a parlé patrimoine.
D'accord.
Patrimoine foncier.
Ouais, ouais.
Alors concrètement, ils n'ont pas de patrimoine foncier à proposer sur Toulouse. Mmh. Ils en auraient sur Muret, ils en auraient peut-être plus loin à Saint-Gaudens, mais sur Toulouse, il n'y a rien. Même leurs prêtres, ils les mettent dans des HLM.
D'accord.
Parce qu'ils n'ont pas de place, ils n'ont pas de locaux vides. Mais par contre, ils ont des terrains disponibles.
D'accord.
Nous, d'un autre côté, on connaît Bois et Compagnie. Bois et Compagnie, qui eux, montent des abris en bois, qui sont aussi démontables et qui pourraient accueillir des gens à la rue et qui cherchent un terrain. Ben nous, on peut mettre face à face, à la même table, l'évêché et puis Bois et Compagnie.
Ouais, c'est ça. Pour que ceux qui ont les terrains et ceux qui ont la possibilité.
Voilà. Donc comme on a du réseau, on a cette force de proposition qui a du sens et qui fait avancer les projets. On développe d'autres projets dans d'autres secteurs comme ça, d'autres exemples.
Mais encore une fois, je pense que c'est important de le préciser, ça devrait pas être vous qui devez faire ce boulot-là. C'est quand même des enfants qui sont à la rue, quoi. On est d'accord. Quoi. C'est des
tout
familles
à,
entières.
Tout
quoi.
À fait d'accord. Mais d'ailleurs, concrètement, la situation a un petit peu évolué cet hiver. Cet hiver, concrètement, il y avait à peu près 750 personnes à la rue,
à Toulouse.
Ouais. 750 personnes. Si on compte les 400 personnes qui ont été mises à l'hôtel par la préfecture, plus les gens qui sont dans les squats.
Donc dans les squats, on parle donc
ils sont à la rue, ces gens-là.
La Créa, le Mektoub, le CEDIS.
Même nous, voilà. Et donc, voilà, c'est ça. Et donc, ça fait 750 personnes qui étaient à la rue. À la fin de l'hiver, où ils sont?
Ouais, c'est ça.
Et nous, à la fin de la réquisition, une réquisition, c'est pas pérenne.
C'est ça. On va en parler un petit peu plus tard.
C'est pas du tout pérenne. Donc, à la fin de la réquisition, qu'est-ce qu'ils deviennent, ces gens-là? Et donc, il faut trouver vraiment des solutions autres. Il faut créer des places d'hébergement. Alors, ça avance. La mairie a sollicité l'EPFL, le foncier de PFL, pour qui dégage des bâtiments. Et concrètement, il y a la maison de retraite de Bagatelle qui va être transformée en 80 studios. D'accord. Pour y accueillir à peu près 200 personnes. Et ailleurs, ils vont aussi dégager 3 maisons où ils accueilleront, je pense, 15 familles.
D'accord.
Donc c'est déjà pas mal. Okay. Donc la mairie, à travers le patrimoine de l'EPFL, avance. Mais il faut que derrière, la préfecture paye l'accompagnement social qui doit se faire aussi.
Oui, bien sûr.
Et qui sera porté par des associations. Mais il faut payer ces associations. Il faut les, pour que ça fonctionne.
C'est ça le problème.
Et donc l'État fait un petit peu, enfin la mairie avance là-dessus. Nous on applaudit par rapport à ça. Hein. Mais il faut encore, mais c'est pas suffisant. Il faut encore se battre. Il faut continuer parce que concrètement il y a des publics qui restent à la rue. Il y a des femmes isolées à la rue qui sont encore à la rue actuellement et qui sont. On connaît les dangers pour ces personnes-là.
Ben, bien sûr.
Et il y a même aussi, on parle souvent des femmes qui sont à la rue. Ça représente à peu près, on peut compter à peu près 15 femmes tous les jours qui sont à la rue, donc à Toulouse, isolées. Et ça, c'est dangereux, c'est très dangereux, c'est inacceptable. Et également, on parle aussi des gens qui n'appellent plus le 115.
Ben, bien sûr.
Tous les gens qui n'appellent plus le 115.
De toute façon, on était hier au 44 boulevard Lacrosse, un nouveau squat qui vient d'ouvrir. Il y a une personne qui nous expliquait. Bah, de toute façon, moi, j'appelle plusieurs fois par jour le 115. C'est des refus systématiques.
90%.
Quand ça répond.
90%. Donc, ceux qui se découragent et qui s'éloignent du droit social, qui s'éloignent des aides sociales, ben, ceux-là, il faut les compter quand même. Ils ont besoin vraiment de qu'on s'occupe d'eux. Donc il y a encore des besoins.
Alors revenons un petit peu à Rue d'Alès, au bâtiment Rue d'Alès, on en parlait. Donc on peut aussi préciser qu'il y a des réunions qui se tiennent. Donc dans les locaux, des réunions habitants et des réunions militants, c'est ça? Ou je me trompe?
Oui, c'est ça. Donc il y a les mardis soirs, donc là j'en passe un appel à tous les auditeurs s'ils veulent venir, c'est des réunions ouvertes.
D'accord.
Donc là, c'est les réunions du collectif, le C10, où on parle à la fois en première partie de la réunion de l'organisation sur le lieu de vie et la réquisition d'Alès, et après, dans la deuxième partie de la réunion, les activités au sens large du collectif, le C10.
D'accord.
Donc avec tout ce qui va être, cette semaine, il faut absolument qu'on aille voir ce bâtiment, ou il faut absolument qu'on aille voir cet élu. Pour
la politique.
Organisation,
les conditions politiques.
Et donc ça, c'est les mardis à 18h.
D'accord, donc, chaque mardi 18h, rue d'Alès. Quoi.
Voilà, donc aux 3 rue d'Alès.
Bienvenue.
Donc bienvenue à tous ceux qui veulent.
C'est à partir de quelle heure ce soir?
18h30 plutôt. 18h c'est plus.
On se retrouve et puis le temps, on commence à travailler.
On va être franc.
On connaît.
C'est ouvert à tout le monde.
Et après
il y a les dimanches. Donc là c'est à 15h. Et là c'est les réunions propres au lieu de vie.
D'accord.
Donc où on essaye de faire en sorte qu'il y ait au moins un représentant de chaque famille qui soit là.
D'accord.
Et c'est pour parler de ce qui a pu se passer, ce qui va bien, ce qui va pas bien, de l'organisation du lieu de vie spécifiquement.
Ok, ça marche.
L'organisation de la récupération alimentaire, tous les...
Que vous fonctionnez pas mal avec la récup de bouffe aussi, quoi, j'imagine.
Oui, ouais, alors on a un partenariat avec Guillermove, qui est une association qui fait de la récup alimentaire auprès des supermarchés, mais de façon organisée.
Légale, quoi.
Bon, après, j'ai un petit reproche à faire à ce type d'organisation, mais c'est personnel, donc c'est pas le
ben, on peut parler des reproches à faire aux associations qui font... Non, mais ça peut être important aussi, on peut en parler.
Ils retirent pas leurs subventions, quand même. Non, je rigole.
En fait, le problème, c'est que ça fait de la défiscalisation pour supermarchés.
D'accord.
Parce que le fait que l'entreprise fasse un don à une association a déduit de 66% ce qu'elle donne. Voilà.
Donc c'est aider les supermarchés.
C'est aussi lutter contre le gâchis alimentaire. Donc on va pas se plaindre là-dessus.
Qui est le plus gagnant là-dedans, on sait pas trop. Donc du coup, récup alimentaire et puis organisation de la vie quotidienne.
Et puis par exemple, il y a un dépistage de la tuberculose qui va se faire bientôt sur la réquisition, des choses comme ça. On gère tout ça, l'avenue d'un cinéaste, l'avenue d'un photographe.
J'allais en venir à ça parce que du coup, vous faites des activités, des trucs pour les enfants aussi,
des ateliers de
cuisine.
Vous avez le
le pro des activités est à nos côtés.
Donc moi par exemple, ma chambre est collée à la salle de jeux pour enfants.
Ok.
Donc il y a un appartement dont le salon, qui est très très grand, est dédicacé à ça. C'est ouvert les mercredis et les samedis après-midi. Et de là, on essaie d'organiser des activités pour les gamins.
Okay.
Parce que ce qu'on vous disait au début, il y en a une cinquantaine.
Ouais. Cinquantaine de gamins dans le lieu, quoi.
Voilà. Donc si on veut pas qu'ils jouent dans la rue,
ouais, on va en parler
aussi. Il faut que leur trouver des occupations.
Ouais, et
puis... Donc là, maintenant, avec les beaux jours, on sort beaucoup plus, on va au parc principalement. Mais du coup, voilà. Donc par exemple, hier, il y a eu une sortie assez exceptionnelle où les gamins sont allés voir une pièce de théâtre.
Excellent.
Donc ça, c'est quelque chose qui est passé en réunion le dimanche pour informer les familles. Qu'il faut que, enfin, que si elles veulent, leurs enfants peuvent venir et que même si elles veulent, elles peuvent venir accompagner.
Ça, c'était offert gracieusement par une salle de théâtre, une
donc
compagnie
c'est... Non, c'était un spectacle de théâtre gratuit.
D'accord. Ah,
c'est le cirque Armagnac.
Armagnac, ah oui,
ouais,
c'était.
Au Bazac.
Au Bazac, c'est ça.
Voilà. Et ça continue cet après-midi.
Excellent.
Voilà. Voilà. Ouais, c'est très sympa.
Et du coup, c'était un spectacle pour enfants, donc c'était très adapté. Ouais, puis après, parc, jeu.
Excellent. Très ludique. Donc ça, pour les gamins, c'est chouette. Et puis après, ouais. Peut-être pour les adultes ou quoi, est-ce qu'il y a des trucs qui sont organisés aussi, des trucs de cuisine peut-être collective ou je sais pas
Ben, non, mais là aussi, les parents s'impliquent obligatoirement. Quand il y a une sortie, ceux qui ont des voitures, ils prennent leur voiture, ils accompagnent les enfants. Toujours, ils sont sollicités. Hein.
Okay. Et en termes d'ateliers, par exemple, pour les adultes, il y a depuis peu un atelier informatique qu'on a commencé à mettre en place. On en est à nos débuts, donc ça manque peut-être encore de régularité, mais ça va venir. Et du coup, l'idée, c'est de... Voilà, il y a une salle avec 4 postes informatiques, un accès à Internet, et on les aide déjà à s'habituer à l'outil informatique, Word, etc., à faire leur CV, des marches en ligne.
Également, pour les adultes, il y a aussi des cours de français, des cours de FLE. On encourage tous les habitants à prendre des cours de français, ceux qui ne maîtrisent pas la langue.
C'est plus facile pour s'en sortir face aux administrations.
Soit sur le lieu,
après, quoi, ouais.
C'est indispensable.
Ouais, c'est clair.
Ceux qui ont du travail, c'est ceux qui parlent français. Il n'y a pas de mystère.
Ça passe pas mal par les enfants aussi. C'est pour ça que c'est important que les enfants soient scolarisés, etc.
Bien sûr. Ouais. Les enfants, il y a beaucoup d'enfants qui parlent beaucoup mieux que les parents.
Ben oui, évidemment. En un an, le gamin, il parle couramment français.
Ouais, c'est ça. Tandis que, les parents, pour certains, c'est un peu difficile. Dur, hein. Donc certains, ils apprennent sur le lieu.
En Géorgie, je ne suis pas sûr que je parle russe au bout d'un an.
C'est ça. Et moi, je ne vais pas parler mongol si facilement. Ou arménien.
Exact.
Et donc, on les encourage à aller aussi à l'extérieur. Dans les cours de français gratuits à l'extérieur, il y en a plein, Bagatelle.
Bah oui, voilà, c'est ça.
On les connaît tous. Et on peut dire que vraiment, il y a beaucoup d'habitants qui prennent des cours de français. Mmh. Et ça avance.
Alors, juste pour revenir un tout petit peu, un petit détail, mais on parlait de l'électricité tout à l'heure, l'eau aussi, c'est établi.
Pas encore.
Pas tout à fait. En tout cas, vous avez accès à l'eau.
Sur le bâtiment, il y avait le gaz.
D'accord.
Mais donc,
gaz de ville.
Oui.
D'accord.
On pouvait l'utiliser éventuellement, mais par mesure de sécurité, on l'a pas utilisé, donc on a chauffé, on a mis des cumulus, on a installé des cumulus.
D'accord.
Et on recherche des plombiers.
Et le fait que tu parles de ça, je pense que c'est important de le préciser. L'objectif du collectif sur ce bâtiment, c'était d'obtenir un bail d'occupation temporaire ou un bail précaire. Il y a plusieurs appellations qui sont possibles. L'objectif, c'est on est d'accord à payer une partie, donc en l'occurrence les charges, avoir une situation un peu stable via une sorte de contrat qui serait signé avec le propriétaire et qui nous permet d'avoir une bonne relation avec le propriétaire, que d'avoir des délais, par exemple avant de partir. Je crois que dans les bails d'occupation temporaire, c'est des délais de 3 mois. Donc l'objectif, il était là. Bon, finalement, on va se mettre à payer l'électricité sans avoir obtenu ce bail, ce qui est un peu
bancal, quoi.
Mais en tout cas, c'était un objectif du collectif, quoi, que ça soit une situation à peu près légalisée ou du moins négociée.
Et tout à l'heure, Jordan, tu parlais d'Internet aussi. Ça, c'était une connexion qui a été mise en place facilement. Comment ça s'est passé, vous savez?
À Saint-Pierre, c'était
neutral,
et là c'est un peu plus compliqué là.
D'accord.
Donc les habitants ont pris des box.
Ok.
Certains ont pris des box. Ok.
Et ça fonctionne, quoi.
Oui, parce qu'il y a des gens, ils ont des salaires.
Oui, voilà, c'est ça.
Ils sont dans la rue, mais ils ont des salaires tout à fait corrects. Hein.
Mais ils n'arrivent pas à accéder à l'hébergement.
Bien sûr, parce qu'on travaille aussi pour que, enfin, on travaille. On aide, on encourage les gens à trouver des des solutions de travail. Certains okay. ont pas mal font du travail temporaire, d'autres ont des CDD, et puis certains ont même des CDI. Hein. Donc ça avance.
Alors moi j'étais venu quelques semaines ou quelques mois peut-être, mais plutôt quelques semaines après l'ouverture de ce bâtiment, et une des principales préoccupations c'était le voisinage. Bien le connaître déjà, faire du lien peut-être, et puis éviter qu'il y ait des voisins qui se plaignent, qu'il y ait des gens qui squattent là, alors que quand on passe devant, on remarque pas que l'immeuble est squatté. C'est pas un immeuble plus bruyant, plus sale ou plus... voilà.
Je trouve que le terme squatté, c'est un peu galvaudé. C'est pour ça j'aimerais habiter.
Ou réquisitionné.
C'est pour ça que nous, on parle de réquisition. C'est pour montrer par rapport à l'État qui fait pas son travail.
Mais ça saute pas aux yeux, comme on a pu le voir hier, forcément.
Non, c'est pareil. De toute façon, c'est un immeuble. Donc du coup, le rapport avec les voisins, je pense que ça, c'est important.
Nous, les voisins, c'est très important. C'est très, très important. Et quand on est arrivé, on a donné des tracts à tous les voisins en laissant nos numéros de téléphone pour éventuellement, s'il y avait des plaintes ou n'importe quoi, qu'ils puissent nous joindre.
Avant d'appeler la police, quoi.
Ou la mairie. Concrètement, il y avait beaucoup d'appels au début. Quand on est arrivé, 150 personnes, c'est pas évident qu'ils rentrent d'un seul coup dans un bâtiment qui était resté vide pendant 4 ans. Ça se voit un peu, quand même.
Ça se voit forcément,
Et donc,
avec les enfants qui jouent dehors, notamment.
Il y a eu beaucoup d'appels au début, maintenant il y en a moins. Et puis surtout, la teneur des appels évolue énormément, quoi.
Ouais.
Maintenant, on est prêt à boire le thé ou le café avec certains voisins, quoi. Mais d'autres sont encore un peu légitimement dans des reproches. Mais c'est normal de réajuster continuellement. Mais on a pris contact avec M. Biasotto, qui est le maire de quartier, qui nous a reçus et qui nous a même invité à la première réunion de quartier pour présenter ce qu'on faisait à la réquisition de la rue d'Alès. Et lorsqu'on est venu présenter à la réquisition de la rue d'Alès, qu'on a présenté le C10 et les habitants, ils nous avaient dit attendez-vous à une montée de boucliers.
D'accord.
Et en fin de compte, à la fin, quand on a présenté le C10, les gens ont applaudi.
Ouais.
Donc il y a eu
l'accueil a quand même.
L'accueil se passe plutôt bien. Se passe bien. D'accord. Mais il faut réajuster à des moments, quoi. C'est
oui,
certain.
Ouais, c'est sûr.
Certain. Forcément. Mais autrement, on fait attention. Et tous les premiers samedis du mois, on fait des repas partagés.
Ouais.
Et des journées portes ouvertes.
Voilà, je voulais venir. Je savais que vous faisiez des journées portes ouvertes. Peut-être on pourrait détailler un petit peu c'est quoi le but et puis comment ça se passe.
Tous les premiers samedis du mois.
Tous les premiers samedis du mois. Je le note et on va les annoncer dès à présent.
Avec grand plaisir. Donc généralement, ça commence aux alentours de midi sous forme d'un repas partagé, collectif. Où là, les gens se débrouillent, quoi. Soit ils amènent à manger, soit ils viennent...
Ouais, auberge espagnole, quoi, quoi.
Et après, en fonction, des fois, il y a des activités un peu spécifiques pour les gamins, des moments de discussion, voisinage, habitants...
D'autres fois, les habitants offrent des services aussi.
Ouais.
Des massages. On a fait une première, on avait fait des massages, de la couture, de l'informatique, réparation d'ordinateurs, des choses comme ça. Ça marchait, c'était sympa.
Mais proposer des services aussi, c'est vrai que...
Des échanges de services.
D'accord. Ouais, c'est ça. D'accord. Ok, ça marche. Donc, tous les premiers samedis du mois, aux alentours de midi, on peut se pointer rue d'Alès et puis échanger, partager.
Venir avec son gosse si on a envie, comme ça il peut venir jouer avec les autres.
Échanger, partager.
C'est l'idée, quoi.
Ok.
Et puis c'est vrai qu'on fait un petit coup de com' de ces journées portes ouvertes, surtout dans le quartier.
Ouais.
Parce qu'elles s'adressent à tout le monde, mais c'est aussi avant tout aux voisins, pour qu'il y ait cette rencontre qui puisse se faire, au lieu qu'on ait des reproches à faire à la personne, mais de loin, qu'on puisse se le dire, parce que c'est vrai qu'en soi, il y a quand même des choses qui ne vont pas encore tout à fait, et les voisins, il y a certains reproches qu'ils nous font qui sont totalement légitimes.
Certains voisins sont venus sur le lieu, à une réunion du dimanche.
Il
y a un voisin qui nous avait appelé le dimanche, on lui dit « Est-ce que vous pouvez venir parler aux habitants ?» Il est venu parler aux habitants, et les habitants, ils ont applaudi. Et ça fait évoluer la situation. Et maintenant, dernièrement, il nous a rappelé, mais en mode tout à fait tranquille, et puis il dit « Bon, il y a encore telle chose ». On est intervenu tout de suite. On est allé nettoyer chez lui. Nettoyer chez lui parce qu'il y avait des jets de petits trucs.
Des gamins
qui avaient balancé des choses. On a pris un sac poubelle, on a nettoyé. Tout va bien. Dans ce sens-là, ça c'est bien. Ça se passe plutôt bien.
Ça fait du lien. C'est humain, quoi.
Ça fait du lien, oui.
Voilà, c'est bien.
Moi, je me souviens, au début, il y avait une dame, elle passait sur le trottoir. J'essayais de lui donner des tracts. Elle a baissé la tête, est passée à côté. Et maintenant, elle nous apporte des meubles et elle demande des nouvelles de tel jeune ou tel jeune. Donc, voilà. Ça évolue aussi. Hein,
ça peut faire évoluer la mentalité des gens aussi. Parce que c'est
au niveau des commerçants aussi. Ouais.
Au niveau des commerçants aussi.
Bien sûr, au niveau des commerçants. Même au niveau du collège, au niveau des écoles. Tout ça, c'est important d'avoir du lien avec eux.
Mais si vous pouvez les toucher, c'est un peu la vie du quartier aussi. Donc, ça se répercute après.
On est intégré, on fait partie du quartier.
Même sur le long terme,
c'est pas forcément sur le long terme.
C'est pour ça que je voulais...
Puisque maintenant, il y a un procès, les habitants qui sont assignés...
Le 4 mai.
Et donc, nous, on n'est pas contre que ce bâtiment soit vendu, surtout pour y faire des logements sociaux. Donc on ne s'oppose pas du tout à ça. Mais simplement, comme la vente est prévue pour 2016, si on peut prolonger avec le ministère de la Défense, il faut qu'on rentre en communication avec eux. Lors de procès, on dira tout ça.
Donc alors là, le propriétaire, c'est la Société Nationale Immobilière, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. C'est ça.
Donc c'est le ministère de la Défense.
C'est le ministère de la Défense.
C'est l'État complètement. Oui.
Le fait qu'il nous ait mis en assignation qu'au mois de mai,
c'était déjà
bon signe. C'est bon signe dans le sens où, en général, un squat, on est vite assigné au bout de quelques semaines. Est-ce que là, qu'on nous laisse, c'est qu'on nous connaît.
C'est presque un an, quoi, du coup, ça fait voilà. presque un an.
C'est qu'on nous connaît, c'est qu'on dit, bon, mais laissez-les tranquilles, pour l'instant, on les connaît, on sait ce qu'ils font, ça se passe bien.
Vu que le collectif avait fait un gros effort, par exemple, Quai Saint-Pierre.
Quai Saint-Pierre, c'est l'ancienne réquisition qui était.
Par exemple, que ce soit relation voisinage avec les pouvoirs publics ou même au moment où le propriétaire, donc qui était la mairie ou le PFL plutôt, il me semble.
C'était un bâtiment d'EDF qui a été vendu au PFL pour y faire Sciences Po.
Voilà. Et du coup, le jour où ils nous ont dit de partir. Enfin, moi j'étais pas là, mais le jour où ils ont dit au collectif de partir de Quai Saint-Pierre, le collectif est parti. Enfin, il y avait un
accord tacite. Voilà, on cherche pas à s'opposer à une vente quand ça sert à quelque
chose.
On ne cherche pas le conflit. Voilà. C'est pour ça
qu'on a des bonnes relations.
Un petit peu qu'on est avec la mairie, notamment avec Monsieur Rouget, le troisième adjoint du maire, qui nous connaît bien, avec lequel on a des relations régulières tous les mois dans le cadre des réunions errances. Avec toutes les associations qui s'occupent de l'hébergement sur Toulouse. Donc là, on est complètement repérés. Ils savent ce qu'on fait. Quoi.
C'est tout ce
et
que...
lui-même s'était proposé d'appeler la préfecture, en gros, qui est représentant de l'État. Un petit peu du ministère de la Défense, un petit peu.
Oui, bien sûr, complètement, même pas
et donc,
un petit peu.
Et donc, de nous soutenir un peu par rapport à ça.
C'est un peu tout
concrètement, il a fait, quoi.
C'est un peu le retour positif de tout ce que vous faites en amont, de prévenir les gens, d'aller voir les voisins.
C'est là où, par rapport à d'autres collectifs...
De tranquilliser les gens un peu pour pas qu'ils...
Enfin, c'est ça, de rassurer.
Renseigner, quoi.
C'est pour ça que nous, on communique aux réunions de mairie. Dès qu'on nous demande qu'on peut communiquer, on y va, nous.
Ok.
Oui, quand on parle, quand on échange, de suite, on se comprend mieux.
C'est ça, bien sûr, il faut parler.
Moins. Voilà.
Exactement.
Pour preuve, votre présence ici.
Voilà.
Par exemple, voilà, là, on nous demande de payer l'électricité, ben, on le fait. Même au contraire, on
joue le jeu.
Parce que ça... Pour les familles, ça participe à leur autonomisation, leur insertion dans le tissu, enfin dans la société.
Puis finalement, c'est con, mais c'est une reconnaissance aussi du fait que vous existez, quoi.
C'est ça.
C'est bien ça.
Déjà, Saint-Pierre, on avait proposé de le payer, mais c'était plus compliqué. Bon, ça n'avait pas pu se faire.
Mais on en propose.
Rien que la proposition. À la hauteur déjà,
si on n'est pas riche, le budget du CEDIS, il va pas très fort.
Au niveau du budget,
on avait fait un concert de soutien qui avait ramené 1 800 euros, c'était extraordinaire.
Déjà, c'est bien. Ouais,
il n'en reste pas beaucoup maintenant.
Ouais. C'est les sorties, le plombier, les trucs, les seules ressources en fait. Quoi,
c'est les concerts de soutien.
Ou bien alors les trucs que vous organisez vous-même.
Ou les donations personnelles.
Mais
essentiellement, il
n'y
a que le concert de soutien.
D'ailleurs, j'espère qu'on va en faire un bientôt.
Mais on ne parle pas tellement d'argent au CEDIS, on parle plutôt d'entraide et de partage,
de service.
De se débrouiller comme ça.
Normal.
Ouais.
Il y a cette volonté de vouloir trouver les solutions, d'aller voir les gens, débloquer les choses, et pas forcément attendre quelque chose qui arrive.
Bien sûr.
On n'attend pas des subventions de l'État. Quoi.
Voilà.
Bon, et du coup, le tribunal, là, donc ce 4 mai...
Parlons des choses qui fâchent.
Ouais, non, mais c'est concrètement... Qu'est-ce qui est en jeu, quoi ? C'est votre présence dans le bâtiment, en fait.
C'est rester peut-être un peu plus longtemps, si c'est possible. Et puis en plus, s'en servir comme tribune politique, quand même. Hein,
pour et dire vous, que... vous attendez à quoi sur ce jugement-là vous...
Bah,
vous
nous, avez... on espère, si on pouvait, ce serait si la vente est née qu'en 2016. Ben rester jusqu'à la vente.
Si, oui, c'est ça.
Si ça fait pas de tort à la vente, si ça fait pas de tort au projet futur, voilà, restez là.
Mais sauf erreur de ma part, quand un appartement est vendu et qu'il y a des locataires à l'intérieur, c'est pas pour autant qu'on vire les locataires.
Non, mais nous ne sommes pas des locataires.
Mais vous n'êtes pas des locataires, on est d'accord.
La préfecture n'aime pas entendre parler de ça.
C'est quoi les projets qui sont sur les projets immobiliers en tout cas
de... les chalets qui...
Donc là, ils veulent...
on pense que ce serait les chalets qui achèteraient, qui seraient acquéreurs et qui...
pour faire des
logements sociaux.
Ils veulent retaper le bâtiment, quoi.
Ouais, retaper.
Ils nécessitent quand même, en termes d'isolation phonique, par exemple.
Et puis tout ce qui est eau, canalisation.
Ouais. Canalisation d'eau qui
tombrie. Ouais,
autrement, les appartements sont en bon état.
Il y a double vitrage, par exemple.
Ouais. Ouais.
C'est quand même
pas mal,
une bonne qualité.
En plus, les habitants ont bien aménagé. Il y en a...
D'accord.
C'est assez spectaculaire.
Enfin, souvent, les personnes qui arrivent dans le bâtiment, comme ça, extérieur au collectif, ne se rendent pas compte qu'ils sont dans un squat. Enfin, tellement le lieu est quand même en très bon état.
Et puis vous en prenez soin, parce que forcément, c'est quand c'est son propre lieu de vie, on en prend soin. C'est clair.
Hier, on s'est déplacé sur le boulevard Las Crosses avec Clément, et tout à fait, moi je m'attendais à un squat, on va dire, un peu le stéréotype dans la tête, avec des couloirs, des déchets partout, des choses, ou des maisons délabrées, tout ça. Et pas du tout, quoi. On est rentré chez quelqu'un, on aurait pu manger par terre, ça sentait bon, la cuisine, tout était propre, enfin voilà, rien à voir.
Un lieu de vie, quoi.
Un lieu de vie, exactement.
Pour revenir au procès, on en fera certainement aussi une tribune justement politique.
Bien sûr,
pour dire que l'État fait pas son boulot, qu'il manque des places d'hébergement sur Toulouse. Même si dernièrement Sylvia Pinel, la ministre du Logement, a dit qu'il ne fallait plus de nuitées d'hôtel et remplacer les nuitées d'hôtel qui coûtent très très cher par des places d'hébergement. Concrètement,
faudrait la préfecture arrêter de fermer les centres d'hébergement déjà pour pouvoir faire ça. Ça serait pas mal.
Et donc concrètement, il y a une création de 106 places d'hébergement sur Toulouse supplémentaires. Mm-hmm. Bon, et c'est un petit peu mieux. Il y a du mieux, mais c'est pas suffisant.
C'est pas encore ça.
Et donc ça, on le dira, quoi.
Ok. Eh bien, très bien. Et si, à l'occasion du 4 mai de votre procès, vous souhaitez passer dans les studios de Canal Sud pour dire quelques mots, peut-être un peu moins longuement, parce qu'on va pas non plus voir tous les 15 jours pour discuter une heure de ça, mais en tout cas pour donner des news et l'actualité quoi du C10, il y a aucun problème. Vous êtes les bienvenus, bien sûr. Un petit dernier mot, peut-être.
Oui, juste pour qu'on peut voir le site internet.
Ouais, bien sûr. L'adresse.
C10.org.
Voilà. Il y a une page Facebook aussi, je crois.
Il y a une page Facebook également. Et puis, les gens veulent venir, c'est le mardi soir.
Le mardi soir, 18h.
Le mardi soir, 3 rue d'Alès. Et les premiers samedis de chaque mois.
Pour les portes ouvertes et les rencontres.
Toujours à la même adresse, 3 rue d'Alès. Enfin, 1, 3 et 5 rue d'Alès pour les portes ouvertes et pour les réunions juste au numéro 3.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, merci, Jordan. Merci beaucoup,
pour
Michel.
Merci à vous.
Et puis, c'est ainsi qu'on va terminer ce magazine. Voilà, le magazine de Canal Sud, mais tous les midis, midi à 14h ou à peu près. Et puis, eh bien, le mercredi soir également. On n'oublie pas le mercredi soir.